Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les dynamiques de sécurité qui bougent beaucoup en Afrique. On s'appuie pour ça sur trois articles récents d'Africa Press.
Oui, bonjour. Des articles qui touchent à des points névralgiques. Les anciens militaires français, la stratégie américaine et puis les tensions internes en RDC.
C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu ces reconfigurations. Alors, commençons peut-être par la France. C'est une situation assez particulière.
Ah oui, pour le moins. D'un côté, Paris annonce des fermetures de bases au Tchad, en Côte d'Ivoire. On sent une volonté de retrait ou du moins de repositionnement.
Oui, un signal de désengagement apparent.
Exactement. Mais de l'autre côté, on voit que ces anciens militaires qui sont très qualifiés, ils sont très demandés.
Demandés par qui principalement ?
Surtout par des sociétés militaires privées, les SMP. Souvent anglo-saxonnes d'ailleurs, ou turques comme Amenton, G4S. C'est un peu comme si l'expertise militaire française était privatisée, en quelque sorte.
Une privatisation de l'expertise. Et ça, j'imagine que ça ne plaît pas forcément à Paris.
Non, c'est un vrai casse-tête. D'abord parce que ça contredit cette image de discrétion recherchée. Et ensuite, localement, la perception est compliquée.
Compliquée comment ?
Un officier cité le dit très bien. Un blanc en civil, armé, qui parle français, c'est un militaire français. Difficile d'échapper à l'image, voire aux accusations de néocolonialisme masqué.
Oui, même si ce ne sont plus des militaires officiels.
Voilà. Et puis, à la loi française qui est assez stricte sur le mercenariat armé, ce qui met Paris dans une position délicate par rapport à d'autres acteurs comme la Russie ou la Turquie, qui utilisent leur SMP de manière beaucoup plus décomplexée, disons.
D'accord. Donc la France est un peu prise au piège de sa propre expertise, alors que les États-Unis, eux, semblent afficher une stratégie plus claire, non ?
Oui, on voit un changement. Le général Hanley, le chef de l'Africom, parle beaucoup de partage des charges. L'idée, c'est que les partenaires africains prennent plus de responsabilités pour leur propre sécurité.
Une sorte d'autonomisation sécuritaire.
C'est ça. Ça correspond à une vision américaine d'une armée plus légère, moins déployée partout, et qui cherche surtout des partenaires fiables. C'est une tendance qui avait déjà commencé d'ailleurs.
Mais cette autonomisation, est-ce que c'est réaliste sur le terrain ? Les défis sont énormes, non ?
C'est toute la question. Une analyste, Beverly Ochieng, le souligne bien. Beaucoup d'armées africaines manquent cruellement de moyens, d'équipements, de capacités aériennes surtout.
Alors, comment partager la charge face à des groupes comme Al-Qaïda ou Daesh, qui, eux, gagnent du terrain au Sahel ou qui persistent en Somalie?
Exactement. C'est un pari risqué. Ça pourrait même créer un appel d'air, comme vous disiez tout à l'heure.
Un appel d'air pour qui? La Chine? La Russie?
Ben oui. Eux ne restent pas les bras croisés. Ils proposent des formations, du soutien, parfois via leurs propres mercenaires. Ce repositionnement occidental, qu'il soit français ou américain, ça ouvre des espaces, c'est clair.
Et ces jeux d'influence externes, ça doit avoir un impact sur les situations internes, j'imagine. L'article sur la RDC, par exemple.
Ah oui, l'exemple congolais, très parlant. On a vu la sortie de l'ex-président Kabila contre Tshisekedi. Des mots très durs. Ivresse du pouvoir, tyrannie.
Et la réponse n'a pas tardé. L'UDPS, le parti de Tshisekedi, a répliqué très violemment.
Très violemment, oui. C'est Augustin Kabuya, le secrétaire général, qui est monté au créneau. Il a accusé Kabila d'être rien moins que le géniteur du M23, ce groupe rebelle dans l'Est.
Carrément. Et il a rappelé les 18 ans de chaos sous Kabila.
Tout à fait. Ils ont même fait une sorte de mise en scène avec des images de victimes de la répression passée. C'est une façon de régler des comptes, de discréditer l'ancien régime, mais ça ravive aussi de vieilles tensions politiques.
Dans un contexte sécuritaire qui est déjà explosif, surtout à l'Est.
Précisément. Et on voit bien comment tout ça se connecte. Le retrait relatif des Occidentaux, le changement d'approche.
Ça crée des vides ou des opportunités.
Que les SMP, la Russie, la Chine s'empressent d'utiliser. Les SMP deviennent des outils d'influence, ça brouille les lignes entre présence officielle et officieuse.
Et cette compétition externe vient jeter de l'huile sur le feu des tensions internes, comme en RDC.
C'est exactement ça. La lutte pour le partenariat sécuritaire en Afrique est vraiment intense en ce moment.
Bon, si on essaie de résumer, on a vu le dilemme français avec ces ex-militaires devenus mercenaires malgré eux, en quelque sorte.
Oui.
Ensuite, le pari américain sur l'autonomisation africaine, avec tous les défis que ça implique.
Et enfin, l'exemple congolais qui montre comment les luttes de pouvoir internes sont exacerbées par ce contexte régional et international très mouvant.
C'est une bonne synthèse.
Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve.
Laquelle ?
Face à tout ça, face à ces reconfigurations, à ces nouveaux acteurs, y compris privés, quelle est la marge de manœuvre réelle pour les pays africains ? Comment peuvent-ils vraiment construire leur propre chemin vers la stabilité, vers une souveraineté pleine et entière ?
C'est une excellente question pour terminer. Une réflexion essentielle pour l'avenir du continent. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.